Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et 01 TV présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et bonjour à toutes et à tous. Comme chaque semaine, très heureux de vous retrouver pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end de la tech sur 01 TV, sur YouTube, 01net.com, sur la chaîne 01 TV sur les box, et puis aussi bien sûr sur l'appli RMC, l'appli BFM Business, et le dimanche matin donc sur BFM Business Radio Télé. Si avec ça vous nous ratez, c'est que franchement vous le voulez. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, petit vaccin de rappel sur une marque qui a toujours prôné la qualité et l'innovation. Il s'agit de Jabra, Jabra qui est l'un des leaders dans le monde de l'audio, et on reviendra un petit peu sur l'ADN de Jabra, sur son histoire et puis surtout sur les tendances en matière d'audio. On sait que les intra-auriculaires, des trous wireless sont en train de bouleverser ce marché. Comment aussi se positionne Jabra face à Apple, qui évidemment cartonne avec ses AirPods? Ce sera tout à l'heure avec mon invité. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, à tout moment réagir sur la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous êtes de plus en plus nombreux à y adhérer, n'hésitez pas. Et puis bien sûr le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. Le club de la presse IT pour commencer, tous les titres d'actualité qu'il fallait absolument découvrir cette semaine, c'est avec Raphaël Grably. Bonjour Raphaël.
Salut François.
Toujours un plaisir de retrouver mon camarade Raphaël Grably de BFM Tech, l'actu du moment. Alors il y en a vraiment pour tous les goûts, on va parler smartphone, on va parler politique avec l'Australie, on va parler aussi des faux pas de Devialet dans le monde du son. Mais pour débuter, le smartphone. Raphaël, avec pas mal de news concernant notamment Xiaomi, qui vient d'annoncer son nouveau smartphone haut de gamme qui était très attendu.
Oui, le Mi 11, donc le haut de gamme de Xiaomi, qui vient d'être annoncé. En fait, il avait été annoncé en décembre. Là, il vient d'être annoncé pour la France. Alors, le prix, c'est 750€ ou 799€, comme d'habitude, c'est selon la quantité de mémoire.
Voilà, il y a deux configurations, oui.
Donc, Xiaomi, finalement, qui garde un peu son positionnement habituel, c'est-à-dire rester un peu moins cher. En fait, qui prend un peu la place d'un... Enfin, qui est comparable à OnePlus, finalement, dans le positionnement. C'est-à-dire moins cher que les vrais, entre guillemets, smartphones premium, mais qui promet, évidemment, l'expérience similaire à celle d'un... Galaxy S21. Alors évidemment, le son Harman Kardon, c'est intéressant.
Ouais, c'est nouveau ça.
C'est nouveau, notamment quand on sait qu'il y a Samsung aussi en face. C'est pas anodin.
Oui, puisque Harman Kardon appartient aujourd'hui à Samsung.
Exactement. Évidemment, compatible 5G chez les Chinois, c'est plus un débat depuis maintenant un an et demi. Évidemment, l'écran avec le petit notch, enfin le petit poinçon, mais un grand écran comme d'habitude chez Xiaomi. Je suis assez étonné moi sur la photo. Alors. Je suis assez étonné, je fais semblant d'être étonné parce qu'évidemment le smartphone on le connaît depuis quelques semaines puisqu'il a été présenté pour la Chine. Mais c'est vrai que finalement Xiaomi se distingue quand même vachement de la concurrence parce que, on va plus trop parler de Huawei, mais même Samsung qui je pense est vraiment, c'est l'outsider qui vise Samsung clairement, mise beaucoup sur le zoom. Et là Xiaomi fait le pari totalement inverse, c'est-à-dire pas de zoom, enfin pas de téléobjectif. Tiens. Alors évidemment il y a un zoom numérique, mais avec un zoom numérique on va jusqu'à du x2 et puis après c'est...
Après il y a un gros capteur je crois, non? Il y a un gros capteur avec beaucoup de pixels.
Il y a un gros capteur, c'est du 108 mégapixels.
Voilà, c'est ça. Donc on peut un peu zoomer dans l'image,
voilà,
c'est vrai qu'on n'a pas de zoom optique.
Avec un capteur comme ça on fait un bon zoom x2, x5, ça reste à peu près acceptable et puis après c'est fini, l'ultra grand angle, forcément, puisque c'est aussi très à la mode. Mais le troisième, au lieu d'avoir un téléobjectif, ils mettent un mode macro. Alors,
Le mode macro, rappelons-le, c'est pour faire des
photos en très 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 gros plan.
Voilà, donc si vous aimez les fleurs, par exemple, ou les insectes.
Ouais, enfin, le mode macro, alors je ne sais pas, est-ce que pour l'Asie, c'est perçu d'une façon différente?
Peut-être.
Mais c'est vrai qu'en France, en Europe, le mode macro, on s'en fout un peu quand même. On ne s'en sert jamais du mode macro. Souvent, en général, d'ailleurs, la qualité d'image n'est pas dingue. Alors après, on peut avoir des bonnes surprises, mais je suis un peu dubitatif, moi, sur l'offre photo de ce smartphone, qui est certes très jolie, mais qui vraiment... je trouve, est un peu limitée, voilà, en photo. Après, la qualité d'image chez Xiaomi, on sait que c'est correct, que c'est pas les meilleurs, mais on reste dans ce bon rapport qualité-prix. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même un coup à jouer pour Xiaomi, qui est dans une période, on le rappelle à chaque fois, mais Huawei n'existe quasiment plus. Alors les chiffres, enfin moi j'ai eu des sources dans l'industrie en Europe, les chiffres de vente de Huawei.
Autant Huawei l'année dernière, est en train de mourir de sa belle mort dans le monde du smartphone
Oui, bien sûr. Autant l'année dernière et sur les derniers mois, ils arrivaient à peu près tenir en vendant des anciens modèles.
Le P30 Pro notamment.
Ils ont ressorti 12 000 fois. Autant sur les nouveautés, ils ne vendent plus rien puisque les téléphones sont... Je ne parle pas pour les plus férus de technologie, mais... Pour Madame Michu, entre guillemets, un smartphone Huawei, c'est un smartphone qui est inutilisable.
Bien sûr, puisqu'il n'a pas les services Google.
Il n'a pas les services Google. Donc, je parle vraiment pour la majorité des gens. Évidemment, parmi ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y en a qui vont dire, bah non, Huawei, on peut bidouiller. Oui, c'est vrai. Mais pour la majorité des gens, c'est inutilisable.
Qu'est-ce que je veux dire? Et donc là, donc, il y a évidemment tous les services Google, même si Xiaomi est aussi enquiquiné par les Américains, en ce moment. Ils sont sur la liste noire militaire.
Oui, militaire, mais ils ne sont pas empêchés de travailler, parce que la grande différence avec Huawei, c'est que Xiaomi n'est pas dans les infrastructures ne met pas son doigt dans les infrastructures.
Donc ils sont
5G.
Toujours autorisés à travailler avec Google et avoir tous les services.
Ils sont autorisés, je pense qu'ils vont faire attention aux États-Unis quand même. Mais clairement, en France, du coup, les deux qui ont un coup à jouer, c'est que Xiaomi et Oppo.
Tout à fait.
Et Oppo qui est maintenant, je crois, quatrième dans le monde et qui monte bien en France. Ils ont quelques pourcentages de parts de marché, mais enfin.
Oui, et puis ils sont agressifs.
Ils vont dépasser Huawei sûrement dans les prochains mois.
Ils font de la pub et ils ont de bons produits.
Exactement.
Aussi.
Voilà. Et après, tout l'enjeu pour Xiaomi, c'est d'arriver à convaincre sur ce type de produit, alors que Xiaomi, c'est quand même l'entrée de gamme, c'est leur cœur de gamme, c'est là où ils sont très forts, c'est sur les produits à 250 €, sur lesquels ils ne font pas de marge, donc maintenant, il faut qu'ils essaient de marger, de gagner de l'argent, plus que de conquérir. Voilà, donc ça va être, à mon avis, le grand défi pour Xiaomi, mais qui a un coup à jouer, au même titre qu'Oppo, par l'absence de Huawei, et d'ailleurs... On peut remarquer que les pubs à la télé que Xiaomi et Oppo, qui sont, comme tu disais, assez agressifs, ils mettent partout service Google, pour bien que les Français comprennent que c'est pas comme Huawei. Quand on achète du Xiaomi, on achète aussi du Google.
Alors, ça c'est pour Xiaomi. Quelques petites annonces plutôt un peu plus rapides concernant la concurrence. On parle déjà du futur iPhone qui...
Ça y est, on y est. On est en février. On a les premières rumeurs.
Et Apple commence
13.
Vraiment à songer de manière très sérieuse au futur iPhone.
C'est-à-dire que là, en principe, en février, les protos sont quasiment arrêtés.
Exactement.
Et on s'attaque à la... Normalement, ils sont déjà dans les premiers allers-retours avec la Chine. Chez Foxconn pour aller mettre ça en pré-production. Enfin, c'est-à-dire, voilà, normalement, les choix sont arbitrés quasiment. Et la principale nouveauté qu'on attend tous, alors, dans le monde du mobile, les nouveautés sont de plus en plus pointues parce que forcément, le gros des nouveautés, il y en a de moins en moins, mais c'est évidemment l'écran. Alors, est-ce que ce sera l'iPhone 13 d'ailleurs? Moi, je me pose la question sur le nom. Je sais que, évidemment, le chiffre 13 est un chiffre porte-malheur dans les hôtels.
On parle de 12S, beaucoup.
Parle de 12S, même s'il y a le 12S, l'année d'après, il faudra bien finir par faire,
faire le 13.
Le 13 ou le 14.
Ouais, c'est clair. Mais visiblement, ça ne sera pas l'iPhone révolutionnaire, celui de cette année 2021.
Non, clairement pas.
Donc, c'est pour ça qu'on pourrait imaginer qu'il y a un S.
C'est vrai, c'est vrai. Le retour du S. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un changement de design assez important avec le 12 qui est d'ailleurs franchement réussi, donc il n'y a pas tellement de raison de le changer, je trouve. La principale nouveauté de ce prochain iPhone, ce serait enfin cet écran à 120 Hz, c'est-à-dire
donc
qu'il sera
plus fluide,
fluide. Et quand on sait que la force d'iOS et la force de l'iPhone, c'est la fluidité, moi j'ai envie de dire d'avoir les deux, à la fois la fluidité d'iOS et à la fois l'écran 120 Hz. Et là, à mon avis, ça va être top.
Avec peut-être aussi un capteur d'écran, un capteur d'empreinte dans l'écran, puisque c'est vrai que la pandémie a sans doute fait réfléchir Apple.
Avec Apple qui est obligé de mettre en place une nouvelle fonction qui va être déployée avec iOS 14.5 au printemps, où on pourra déverrouiller son iPhone avec un masque, en fait, s'il détecte qu'on a l'Apple Watch. Mais pour Apple, c'est vrai que c'est compliqué, parce que sur Android... Chez tous les Android, on a maintenant le capteur d'empreinte sur l'écran. Et c'est vrai que sur iPhone, c'est un handicap en période de pandémie, on est tous masqués. Et puis, comme on le dit souvent, quand une technologie est mature, ça va chez Apple.
Ce capteur d'empreinte sous l'écran,
ça fait maintenant 2-3 ans, c'est mature. Donc il n'y a pas de raison qu'Apple ne passe pas le cap.
Dans les rumeurs concernant aussi le marché du smartphone, il y a cette information assez intéressante. On a déjà parlé de Carl Pei ici, dans De quoi je me mêle, qui est le fondateur de OnePlus. Hein. Ouais. Un mec très intéressant, visionnaire, etc., qui avait un beau projet avec OnePlus. Il est parti de OnePlus il y a quelques mois de cela. On sait qu'il a des projets. Hein. Il veut créer une nouvelle marque de smartphone qui s'appelle Nothing. Et il commence vraiment à structurer sa marque en rachetant un autre constructeur qui s'appelle Essential.
Oui, alors Essential, qui était la boîte fondée par Andy Rubin, le fondateur d'Android.
Tout à fait.
Qui avait fondé ça il y a 4 ans.
Qui voulait sortir le smartphone ultime sous Android.
Essentiel.
Voilà. Bon, mais qui n'a pas été essentiel, visiblement.
Qualité, mais qui n'a pas été essentiel, qui a été... la boîte n'a pas réussi à s'envoler. Alors là, ce qu'on voit d'ailleurs à l'image, il y avait un autre projet, mais qui a été avorté de smartphone comme ça tout en longueur. Mais,
c'est un peu bling-bling, hein, là, quand même. Le
voilà, pourquoi, ça aurait été. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait. Ouais, mais bon, apparemment, la viabilité économique n'était pas au rendez-vous. couleurs un peu compliquées, quand même.
C'est ça.
Et donc, voilà, Carl Pei qui veut se lancer dans ce nouveau projet. Alors, ça s'appelle Nothing. Et pour le moment, on sait à peu près Nothing. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. ils disent qu'ils veulent créer un écosystème. Alors, les ambitions sont extrêmement belles. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va avoir devant nous ? Donc, on aura des écouteurs sans fil, ça, on le sait. Mais enfin, bon, des écouteurs sans fil en 2021,
oui. Hein, c'est pas... Il faut vraiment arriver avec un truc nouveau pour faire sensation.
Non, mais ils seront sûrement très bien. Mais voilà, c'est pas ça qui va nous faire changer de vie. Après, c'est le smartphone. Mais le smartphone, alors, Carl Pei a déjà réussi quelque chose avec OnePlus. C'est vrai qu'il a, je trouve qu'aujourd'hui OnePlus a une image et a une expérience utilisateur qui est à part dans le monde d'Android, avec une surcouche extrêmement sobre. Il y a des défauts sur la photo, ils sont pas forcément toujours à la hauteur, mais je trouve que OnePlus propose une expérience exceptionnelle.
Et ça va être intéressant
d'Android.
De voir cette alliance, en fait. Hein,
exactement, parce que Essential, c'est aussi de l'Android stock, Android
exactement.
Pur sucre.
À surveiller,
À surveiller de très près, je suis curieux de voir ce que ça va donner.
Et on devrait avoir des nouveautés au MWC 2021, juin, c'est ça.
Exactement. Et alors, Carl Pei, je vois qu'il essaie de répliquer quand même quelque chose de OnePlus, c'est ce côté communauté. C'est vraiment la communauté qui a porté OnePlus. Il avait fait ça avec les early adopters en 2014, avec les invitations pour avoir le OnePlus One. Il fallait avoir une invitation. Alors là, il propose aux fans, futurs fans, d'investir carrément dans la boîte sans savoir dans quoi ils investissent. Mais on sent qu'il essaie d'impliquer une certaine communauté.
Et de créer une communauté tout autour de
cette marque. J'ai l'impression qu'on dit souvent il est admirateur de Steve Jobs, mais j'ai l'impression que c'est un peu du Elon Musk aussi. Voilà, il essaie un peu dans sa façon de communiquer sur Twitter.
Cela dit, il prend quand même pas les moins mauvais.
C'est pas le pire, exactement.
On revient en France, Raphaël, avec une marque d'audio qu'on apprécie, c'est Devialet. Devialet qui a vécu une semaine un peu compliquée, avec des bugs, une série de bugs sur ses petits écouteurs.
Oui, Devialet qui a des grosses ambitions sur le marché du très grand public, qui a sorti ses écouteurs, les Gemini. Donc, c'est les écouteurs rivaux des AirPods Pro. Alors, sur la qualité intrinsèque des écouteurs, ils ont fait fort parce que franchement, les avis sont assez dithyrambiques sur la qualité du son.
Après, il faut dire qu'ils savent y faire.
Devialet, oui, ils sont pas mauvais. Alors évidemment,
Fantômes, vous savez, c'est leurs enceintes un peu au look incroyable.
Exactement. Alors, ils avaient franchi un cap il y a 2 ans, je crois, avec la Fantôme à moins de 1000 euros. Enfin, bon, ça reste quand même 1000 euros. Et là, alors, ils ont fait des deals avec Freebox. Avec SFR aussi, pour équiper soit des enceintes connectées, soit la Freebox
avec
Delta.
Avec Huawei aussi, hein, avec il y a une enceinte connectée
Huawei.
Et donc,
on sent que Devialet a envie d'infuser un petit peu le grand public. Et là, les Gemini, c'était vraiment le produit vraiment très attendu. Des grosses qualités, un problème de bug avec des grosses difficultés pour beaucoup de clients, notamment d'appairage. Alors, je crois que c'est 20% des cas.
Ce qui est énorme, quand même.
Hein. J'ai pu un peu échanger avec eux là-dessus, 20% des cas. Après, le côté positif, c'est qu'il n'y a pas non plus de panique à avoir parce que c'est un problème qui est purement soft.
Donc, ils vont pouvoir faire une mise à jour.
Et en fait, ils ont dit, comme on est Devialet et qu'on veut vraiment avoir une image absolument parfaite en termes de SAV, on propose à tout le monde le remboursement. On leur propose même de se faire rembourser. On leur renverra des écouteurs neufs avec la mise à jour. Sinon, ils attendent la mise à jour. Donc, une petite alerte pour Devialet, mais qui va aussi pouvoir recruter des ingénieurs parce qu'ils ont levé pas mal d'argent. Je crois qu'ils ont levé plusieurs dizaines de millions d'euros en fin d'année dernière. Donc, c'est voilà, un petit faux pas. Mais heureusement, je pense que d'ici quelques semaines, ce sera plutôt plus de peur que de mal, parce que finalement, ça reste du soft. Et j'espère, ouais. Tu parlais de Jabra tout à l'heure, mais moi, j'espère aussi que Devialet va trouver sa place dans cet écosystème. C'est tout une très, très belle marque.
Mais bien sûr, évidemment.
Et d'ailleurs, ils étaient dans les Apple Store il n'y a pas si longtemps.
Oui, oui, oui. Ils ont maintenant leur propre magasin. Hein,
exactement.
Ils commencent à ouvrir.
Et quand on est dans les Apple Store, en général, c'est qu'on fait quelque
ouais.
chose de pas mal.
Oui. 299 €, hein, les
Genie. 299 €, donc,
voilà, donc c'est pas donné. Hein,
On
peut s'attendre quand même à un produit irréprochable.
Oui, bien sûr. Bah, c'est clairement pas le nivellement par le bas en termes de prix pour concurrencer les AirPods Pro.
C'est sûr. Voilà, on enchaîne avec d'autres sujets peut-être un petit peu plus, on va dire, sérieux. Hein. Vous avez sans doute lu et vu dans l'actualité un peu partout ces histoires incroyables d'hôpitaux qui sont paralysés par des cyberattaques. Et puis, il n'y en a pas qu'un. Hein. On avait connu ces épisodes incroyables de chaînes de cliniques aux États-Unis qui étaient piratées il y a quelques mois de cela. Et bien maintenant, ça y est, chez nous et c'est en France.
Oui,
hein,
il y a une grosse vague de cyberattaques. Alors, il y a deux hôpitaux.
Surtout en cette période, on va dire, de détresse du système de santé en France avec le Covid.
Bah c'est terrible. Malheureusement, ceci explique cela, en fait. Hein. C'est ça qui est dramatique. Hein. Alors, évidemment, on ne va pas parler de la morale des hackers qui piratent des hôpitaux, qui mettent des gens...
Non, qui, eux, n'en ont pas, visiblement.
Qui, eux, ont zéro morale, qui ne pensent évidemment qu'à l'argent, et qui mettent des vies en danger. C'est-à-dire qu'il y a deux hôpitaux. Il y a l'hôpital de Dax et l'hôpital de Villefranche-sur-Saône qui ont été piratés, là, au cours de la semaine dernière. Même mode opératoire, hein, un ransomware. C'est-à-dire un rançongiciel, finalement assez traditionnel. On attaque, on déploie le ransomware.
Qui rentre comment, en fait, dans
C'est là où c'est intéressant. C'était notamment un expert en cybersécurité que j'ai entendu sur BFM Business, justement, et qui parlait du lien, qui faisait le lien avec la cyberattaque contre la mutuelle des hospitaliers. En fait, la mutuelle des hospitaliers a été attaquée. Alors, c'est une hypothèse, il y a quelques semaines. Et du coup, ça veut dire que les hackers ont mis la main...
Sont rentrés par ce biais-là,
alors,
en fait.
En tout cas, ils ont mis la main sur des données sensibles de beaucoup de personnel hospitalier. Et on peut se demander si en mettant la main sur des données sensibles, ça leur a pas ouvert la porte pour un peu, peut-être par une forme de phishing, par des mails, appâter un petit peu en mettant en confiance, en affichant certaines données pour faire croire qu'ils étaient plus en confiance, qu'ils pouvaient les mettre en confiance. Certains personnels hospitaliers de ces hôpitaux, c'est une hypothèse très intéressante, puisque souvent, malheureusement, les cyberattaques, ça vient de failles humaines. Alors, dans les failles humaines, je mets la faille qui consiste à ne pas mettre à jour le système informatique, qui est une faille humaine, une faille des failles de formation, des failles de sensibilisation. Finalement, on se retrouve avec ces hôpitaux qui sont attaqués, avec des conséquences absolument dramatiques.
Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand un système informatique d'un hôpital est attaqué? Alors Raphaël, concrètement, ça paralyse en partie l'activité de l'hôpital ou de la clinique?
Ah ben oui, totalement. En fait, très concrètement, vous êtes au secrétariat de l'hôpital, vous avez un patient qui arrive, vous ne pouvez plus accéder à son dossier. Vous avez un patient qui vient de se faire opérer en chambre ou qui est arrivé pour se faire hospitaliser. Son traitement, il est dans le dossier informatique. Peut-être que le patient n'est pas conscient. Vous ne pouvez pas y accéder. L'imagerie, les scanners, les IRM, les radios, les rendez-vous, vous avez tout perdu.
Mais oui, parce que tout est connecté, en fait.
Tout est connecté. L'historique même des examens, vous pouvez l'avoir perdu. Donc, c'est absolument dramatique. Donc, comme disent la phrase qui revient tout le temps, c'est « on revient au papier et au stylo ». Et donc, c'est vraiment extrêmement pénalisant. Donc, résultat, on est obligé de déprogrammer des opérations. Les patients aux urgences sont renvoyés vers d'autres hôpitaux. Ils ne gardent que vraiment les urgences vitales. Donc, évidemment, c'est des conséquences assez dramatiques. Donc, il y a l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes d'information, de sécurité des systèmes d'information, qui intervient. C'est le pompier de la cybersécurité qui intervient, d'une part, fait l'état des lieux, recommande de ne jamais payer. Là, ils n'ont pas payé la rançon, évidemment. Qui, ensuite, va procéder à un long travail pour... En fait, tout est bloqué, donc il faut, entre guillemets, enlever la gangrène et recréer quelque chose de sain. Et donc, tout le travail de l'ANSSI et des équipes de l'hôpital, c'est de recréer un cœur de réseau parfaitement sain.
Et sécurisé.
Sécurisé, évidemment. Et puis ensuite, et c'est là où la prévention est indispensable, de récupérer les données. Mais pour les récupérer, il faut qu'il y ait eu des précautions et que les données aient été sauvegardées.
Bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de sauvegarde, on ne peut pas accéder aux données.
On peut recréer un cœur de réseau, mais on repart à zéro.
Voilà, c'est ça.
Donc, on recrée un cœur de réseau, et puis après, il faut réimplémenter toutes les données, les dossiers patients, l'imagerie.
C'est ça.
C'est des semaines. C'est des semaines de travail.
Et en pleine période de Covid.
Et puis, c'est des centaines de milliers d'euros. Et évidemment, la motivation, elle est crapuleuse, c'est de faire payer.
Ouais. Est-ce qu'il y a, et j'imagine qu'il y a certains hôpitaux qui payent, enfin, ou certains organismes qui payent, même
En France, d'ailleurs, c'est un peu comme ce qui se passe avec les prises d'otages. Ça dépend des pays, des pays ont certaines politiques. La France, la politique, c'est de ne jamais payer. Mm-hmm. Mais effectivement, pourquoi est-ce que les hackers continuent? Parce qu'il y en a qui payent, évidemment,
qui payent,
notamment aux États-Unis, et puis c'est des rançons en millions d'euros.
Et oui, et puis n'oublions pas que ces hackers aussi récupèrent, en même temps qu'ils bloquent toutes ces données, ils récupèrent des données personnelles.
Alors c'est là où gagnent des deux côtés.
Des patients.
C'est là où gagnent des deux côtés.
Et ces données, ils peuvent les revendre après.
Alors,
c'est ça qui est terrible.
D'ailleurs, c'est hyper important que tu dises ça, parce qu'effectivement, même s'il n'y a pas de paiement qui a été fait,
ça a de la valeur.
Ça a de la valeur, parce que les données médicales, pour derrière les revendre sur le dark web, pour peut-être du phishing derrière, ça a de la valeur. Un dossier médical, ça dépend de l'expertise, c'est entre 50 et 200 dollars.
C'est,
donc c'est énorme. Donc effectivement, tu as raison de préciser ça, parce que même si on n'a pas de rançon qui est payée, malheureusement, on
trouve. Il y a de l'argent derrière tout ça.
Il y a de l'argent derrière.
Direction l'Australie maintenant, magnifique pays, continent incroyable, mais qui ne se laisse pas faire face aux géants de l'Internet.
Ouais. Hein.
Et après Google, c'est l'Australie s'attaque à Facebook, c'est tendu. En ce moment, on sait que Google a plié face aux éditeurs en fait de contenu australiens, parce que en fait l'Australie, en gros, voulait que Google rémunère les éditeurs de contenu, hein, les médias. Donc Google a plié, et en revanche, le même problème est en train de se passer avec Facebook.
Ouais.
Et là, c'est un peu plus tendu visiblement.
En fait, il y a un projet de loi, mais d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe en Europe, ce qui est en train de se produire en Europe avec les histoires de droits voisins. En gros, la question est très simple. Sur Facebook, évidemment, sur le feed d'actualité ou sur Google dans les résultats de recherche, Facebook gagne de l'argent grâce aux liens, quelque part, vers les médias. Et la question, c'est est-ce que Facebook doit rémunérer les médias? Et bien, parce que sur Facebook, on se retrouve avec des miniatures, des résumés de l'article, comme sur Google.
Bien sûr.
Et toute la question, c'est est-ce que Facebook et Google doivent payer les médias dont ils utilisent les contenus? Ou est-ce que, quelque part, eux, leur argument, c'est de dire oui, mais c'est de la visibilité parce qu'on leur envoie du trafic.
Tout à fait.
Enfin, bon,
et puis après, il y a les éditeurs de contenu qui se disent oui, mais vous avez vu, ils gagnent de l'argent sur notre dos,
et
finalement.
Voilà, exactement. Avec
parce
la
qu'il y a,
pub,
y a de la pub sur
non
Facebook.
Seulement ils gagnent de l'argent sur leur dos, mais en plus, ils sont concurrents, puisqu'ils concurrencent les régies publicitaires des médias. Donc, ils gagnent, mais en étant leurs concurrents.
Ouais.
Donc, c'est évidemment, c'est un combat acharné en Europe et donc en Australie.
Bien sûr. Et l'Australie a le courage de défier.
En fait, le gouvernement a
Google
fait un projet
Facebook.
De loi. En disant, maintenant, vous utilisez les contenus des éditeurs, vous payez. Google a dit d'accord. Ils ont dit, nous, on va payer. Ils ont fait un accord.
Ça a été tendu pendant un moment. Hein. Même Google avait menacé de se retirer d'Australie.
Mais parce que ça fait ça crée un précédent. Pour
eux. C'est une jurisprudence.
En fait, c'est tout leur modèle économique.
Si l'Australie arrive à gagner, tous les autres pays vont pouvoir aussi, ça ouvre une brèche en fait.
Exactement. Et alors, le projet de loi n'a pas encore été voté, mais là, depuis quelques heures, Facebook, voilà, en préventif comme ça, ils ont dit, on supprime tous les contenus des médias de Facebook, tous les contenus des médias australiens de Facebook. Résultat, les médias australiens, toutes les publications ont été supprimées. Et même en France, si vous essayez de mettre un lien d'un média australien,
ça ne marche pas.
Ça ne marche plus, voilà. Donc Facebook a sorti l'arme nucléaire, la sulfateuse. Alors franchement...
Alors est-ce que c'est une étape, on va dire, un peu d'intimidation avant d'arriver à un deal?
C'est des méthodes quand même.
Oui, c'est vrai que c'est un peu violent quand même.
Désolé. Facebook voudrait continuer à se faire encore plus détester, il s'y prendrait
oui,
pas.
Oui, c'est vrai que c'est
compliqué. Et en plus, ils démontrent, et c'est ce que je dis souvent, ils démontrent une fois de plus leur monopole, parce que derrière, les médias, ils vont dire, donc, il n'y a plus de Facebook, ils vont montrer leur chute d'audience. Et donc, quelque part, Facebook va un peu démontrer qu'il est en position de monopole là-dessus. C'est aussi mon biais de journaliste. Et évidemment, on fait partie des médias, mais dire qu'on est payé en exposition, je suis désolé. C'est comme vous avez un artiste qui va vendre ses toiles et quelqu'un va dire non, je t'expose, tu vas gagner en exposition, mais je te paye pas. Non, je suis désolé. On utilise un contenu,
bien sûr.
On le paye. Facebook refuse de payer.
Il faut bien qu'on soit rémunéré à la fin. Hein,
exactement. Voilà. Et Facebook, en faisant ça, je trouve, crée aussi un précédent, c'est-à-dire en disant nous, de façon totalement arbitraire, on peut éjecter tous les médias d'un pays en 24 heures.
Bon, c'est le week-end, et le week-end en général, eh bien on en profite pour se regarder de bonnes séries. Disney Plus a annoncé pas mal de nouveautés. On voit que Disney a un peu la pression face à Netflix. Hein. Il faut absolument que le catalogue de Disney Plus s'étoffe. Et ça va être le cas hein, dans les jours et les semaines qui viennent avec l'arrivée d'énormément de contenus de la Fox. Et puis surtout, de nouvelles productions, Raphaël.
Oui, il y a deux grosses nouveautés pour Disney+, l'arrivée d'un sixième univers, il y a Marvel, Star Wars, National Geographic, Disney évidemment, bien Pixar, sûr, ouais. Et donc il va y avoir Star. Alors Star, c'est on va dire un univers qui est dédié tout simplement au contenu pour adultes, enfin quand je dis pour adultes, c'est non familiaux, pas forcément pour les enfants, avec des films tel qu'on peut les retrouver ailleurs. Donc c'est vraiment pour concurrencer Netflix et Amazon, c'est-à-dire sortir de ce côté, c'est pour les enfants, c'est pour les fans de Marvel, c'est pour les fans de Star Wars. Et donc ils ont tout un catalogue, hein, parce qu'ils sont évidemment propriétaires d'un catalogue très important. Ils ont des séries aussi comme 24, comme Desperate. Alors d'ailleurs, 24, ça vient d'arriver aussi sur Netflix, donc oui. Je me demande comment c'est géré.
C'est sans doute pays par pays, je pense.
Ouais, c'est pays par pays, mais donc c'est intéressant. Alors ça s'accompagne d'une hausse de prix importante, plus 30%, je crois, puisqu'on passe de 7€ à 9€. Alors, ceux qui sont déjà abonnés gardent le tarif de 7€ pendant 6 mois. Donc,
De toute façon, après, c'est la stratégie de tous ces services
de SVOD.
Hein.
Pour accumuler.
On se souvient de Netflix au départ, c'était 8€, et puis voilà, maintenant, on est à 15.
Voilà, on est à 15. Voilà. Mais 15€ pour Netflix, ça reste, c'est un jugement personnel, mais c'est un prix totalement acceptable aussi. Mais effectivement, au début, c'est des prix d'appel pour capitaliser, pour engranger de l'abonné, et ça marche très 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 bien avec Disney+. Hein. Ils ont explosé tous leurs objectifs.
Et la nouveauté, c'est que Disney+ va investir dans des séries françaises.
Oui, alors ils sont obligés, puisque c'est la loi. Ils doivent investir.
Oui, ils ne font pas ça que pour nos beaux yeux.
Non, mais en fait, c'est d'une pierre deux coups. Déjà, c'est respecter la loi, parce que les grandes plateformes doivent investir de l'argent dans les productions locales, en France. Il y a 4 séries françaises, mais de toute façon, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, c'est ce qui va permettre de rivaliser avec Netflix, parce que Netflix, c'est 20 milliards d'investissements par an dans le monde. Alors évidemment, sur ces 20 milliards, il y a des investissements locaux dans tous les pays, mais parce qu'ils ont bien compris que pour marcher, ils avaient besoin d'investir localement. Netflix doit se rapprocher de ces marchés parce que en France, on aime les séries françaises aussi. D'ailleurs, je veux dire, aujourd'hui, les séries les plus regardées, je suis désolé, mais ça reste des Joséphine Ange Gardien, Demain nous appartient.
Et c'est typiquement l'audience de Disney+, en plus.
Et exactement, voilà. Et donc, ils ont tout intérêt à investir dans les contenus locaux, c'est ce qu'ils vont faire. Et puis en plus, comme ça, ils s'achètent aussi un peu la sympathie des productions.
Exactement.
Et des autorités locales.
Et des autorités locales.
Donc, ils font d'une pierre deux coups.
Merci, Raphaël, pour toutes ces infos passionnantes. Hein. Vous l'avez vu, cette semaine, encore une fois, l'actu était très chargée. Merci, Raphaël.
Avec plaisir, François.
Raphaël Grabli, donc journaliste à BFM Tech, que vous pouvez lire, bien sûr, hein, sur BFM Tech. Ce De Quoi Je Me Mêle se poursuit dans un instant. Marc, que tu connais bien aussi, hein, dont on va parler, c'est Jabra. Dans un instant, je vais recevoir le porte-parole de Jabra, l'une des boîtes dédiées à l'audio les plus intéressantes en matière d'innovation. A tout de suite, on revient dans un instant.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour donc de quoi je me mêle sur évidemment 01 TV, vous le savez, à la télé, sur YouTube et sur 01net.com et sur BFM Business donc le dimanche, vous le savez aussi, et puis sur l'appli BFM Business et RMC en audio. Merci en tout cas de nous regarder ou de nous écouter. On va maintenant s'intéresser à un acteur très important dans le domaine du son. Vous savez qu'on adore les casques, les trous wireless, les enceintes Bluetooth. Il y a un acteur que j'avais envie de vous présenter depuis un long moment, et je suis ravi d'accueillir Anthony Adouane. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Vous êtes le directeur commercial de Jabra France pour la division grand public. Voilà, les fans de son connaissent Jabra, les autres peut-être un peu moins, mais c'est pour ça qu'on va prendre un peu le temps pour découvrir cette marque qui vient du Danemark, hein, c'est ça ?
Exactement.
Quelle est l'histoire un petit peu, Anthony, de Jabra, sachant que ça a été créé en 1983, je crois ?
Oui, c'était aux US et en fait, ça a été racheté par le groupe GN, donc Great Nordics au Danemark, justement.
Ouais.
Au départ, c'était une marque US. Et GN a fait beaucoup de croissance en rachetant des très grosses sociétés, par exemple Resound pour la partie médicale.
D'accord.
Qui avait déjà racheté Danavox, qui était l'inventeur de la prothèse auditive en 1947. Et Jabra était plutôt un fabricant de d'OEM et
Oui, d'OEM, ça veut dire qu'il fabriquait pour les autres.
Il fabriquait pour les autres, exactement. Donc, il faisait plutôt des micro-casques, plutôt du filaire pour les autres. Finalement, ils se sont décidés de lancer leur propre marque. Et ce qui a ramené le groupe GN, qui lui existe depuis 151 ans maintenant, donc 152 ans en juin. On a fêté nos 150 ans en 2019. Le groupe GN, c'est un énorme groupe au Danemark avec plus de 6000 personnes qui font du médical, du professionnel et du grand public. Et la division Jabra, c'était la partie professionnelle et grand public.
Quel est l'ADN de Jabra ? Parce que quand on s'intéresse un peu à ce que vous faites et ce que vous avez fait, il y a plein d'innovations, de premières innovations que l'on vous doit.
Oui.
Comme par exemple le premier micro à réduction de bruit, le premier casque Bluetooth,
oui,
en fait.
Premier casque Bluetooth.
Là, aujourd'hui, ça nous paraît complètement commun. Mais le premier casque Bluetooth, c'est un casque Jabra.
Exactement. Oui, c'était un mono à l'époque, puis après le premier stéréo.
Et c'était mono le premier casque Bluetooth. Et oui, on ne maîtrisait pas encore bien.
Évidemment.
Ouais, ouais.
Et on venait de la communication. Le groupe GN Audio, donc qui est la maison mère de Jabra, s'appelait GN Netcom, puisqu'on faisait vraiment plutôt de la communication. On est la société que donc le groupe GN a développé tout le télégraphe au moment où il y avait les trains, le premier câble sous-marin, etc. Donc énormément l'ADN, c'est l'innovation.
Oui, c'est l'innovation. C'est ça.
Et les challenges, vraiment innovation. Par exemple, il y a une très grosse partie de l'enveloppe qui est remise sur la recherche et développement.
C'est ça, d'accord.
Pour être en avance sur l'innovation, parce que si on devait juste suivre, au bout d'un moment, ça
ouais,
s'arrêterait.
Évidemment, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a, vous êtes condamné à innover. C'est ça, pour rester un petit peu au-dessus du panier.
Exactement.
Parce qu'il y a certains produits Jabra qui ne sont pas donnés, mais parce que, justement, vous vous positionnez sur la qualité. Hein. On va parler évidemment des tendances aujourd'hui, hein, peut-être la chute des casques au profit des trous wireless, des nouveaux entrants comme Apple qui rencontrent un succès insolent. Comment vous réagissez là-dessus? Mais vous avez aussi inventé pas mal de choses intéressantes, les premiers écouteurs Dolby sportifs sans fil au monde. Voilà, des micros aussi et haut-parleurs intégrés intra-auriculaires, c'est vous ?
Oui.
Donc voilà, vous poussez l'innovation et pas mal de produits que l'on a aujourd'hui qui nous paraissent communs, on les doit grâce à vous. Moi, je me souviens, vous aviez des petites enceintes aussi.
Des enceintes de Soulmate, oui.
Voilà, Bluetooth.
Ça marchait très très bien en France.
Vous aviez été les premiers, enfin en tout cas l'un des premiers à sortir des petites enceintes Bluetooth.
Il y avait Jabra et Jobone, en fait, c'était les deux premières marques.
Ouais. Et voilà, mais Jobone qui a disparu.
Exactement.
Et vous faites toujours des enceintes ou pas?
On fait toujours des enceintes, mais maintenant pour la vidéoconférence, donc plus pour le télétravail.
Ouais.
Depuis 7-8 ans, ouais. Vraiment, avec la gamme Speak.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le marché des enceintes Bluetooth? Pourquoi tout le monde déserte ce... Enfin, tout le monde, non, mais...
Alors,
pourquoi il y a beaucoup d'acteurs qui désertent un petit peu ce marché?
Alors clairement, moi, quand on m'a annoncé qu'on allait arrêter, donc c'était en 2015, qu'on allait arrêter les enceintes, c'était 42% de mon chiffre. Hein, donc j'aurais dit, 2016 va être compliqué.
Vous êtes sûr?
C'est ça, parce qu'en France, c'était un gros succès. On avait, je crois, 14% de part de marché. Ça marchait très bien en Australie, en Nordique, en France. Mais au niveau mondial... c'était considéré comme un échec, la gamme Soulmate.
Parce que vous aviez raté le coche et que finalement vous saviez que les prévisions étaient pas bonnes?
Non, les deux, c'est qu'il aurait fallu investir des millions pour encore aller chercher. On n'était pas dans le Wi-Fi, on n'était que dans le Bluetooth, et ça allait vers le multi-room et le Wi-Fi.
Alors on allait vers le multi-room.
Notre ADN, c'est le Bluetooth.
Et oui.
Donc le multi-room Wi-Fi, il aurait fallu faire de la croissance externe, acheter d'autres marques, etc. Donc on s'était dit, ça va être un peu compliqué, mais aussi... parce qu'on n'avait pas une vraie grosse division retail dédiée, donc grand distri. On était en gros une société B2B qui faisait du B2C. Et depuis 2017, on a vraiment vu un virage. On a recruté des gens très bien de très grosses sociétés, de l'audio et du retail. Et donc, on a pu mondialement avoir une équipe dédiée. Moi, je suis là depuis 8 ans, donc j'ai pas vu le changement. J'étais un peu mougli au milieu du B2B. Mais maintenant, j'ai toute une équipe de gens qui connaissent très bien la grande distri, l'audio, le marché, etc.
Alors Jabra, c'est quoi aujourd'hui? C'est donc une partie grand public, une partie B2B, hein, c'est ça?
Exactement.
Qui se découpe comment en fait, en part de marché et en chiffre d'affaires, c'est quoi?
Alors en ce qu'on appelle communication unifiée, donc pour la partie entreprise, on est le leader, on est le numéro 1 en Europe, on est le numéro 2 aux US.
C'est quoi? C'est les micro-casques?
Les micro-casques, les enceintes de conférence.
D'accord.
On a surtout... récemment, on se disait quelle est la prochaine étape de l'audio. Ce serait aussi l'audio pour la conférence et la vidéoconférence. Donc on s'est diversifié en rachetant la marque Panacast, qui était un groupe Intel Innovation au départ. Et la marque Panacast, c'est de l'intelligence artificielle qui filme à 180 degrés avec trois caméras Donc on trouvait que ça, c'était le, l'étape.
Ah donc vous rachetez toute la société, c'est-à-dire toute que vous allez vous lancer dans, dans la visioconférence.
Exactement.
C'est ça.
Exactement.
Donc, ah oui, c'est quand même un tournant intéressant.
C'est un
quand
très
même.
Gros tournant, mais on se disait, on ne peut pas faire que de l'audio, on ne peut pas faire que du microcast pour le télétravail, il faudra aussi qu'on aille vers là. Après, l'ironie du sort, c'est un avantage cette année, ça fait 10 ans qu'on explique les new ways of working, donc le télétravail, comment on peut travailler à la maison, et évidemment, le Covid cette année a... en 2 mois, amener 2 ans de développement.
C'est vrai, ça a tout accéléré en fait.
Un an et demi, 2 ans de développement prévu en 2-3 mois. Bonjour.
Le micro a un petit peu bougé, mais c'est pas grave. c'est la passion qui fait
exactement.
Que vous en parlez comme ça. Juste un mot, oui, il y a eu donc un avant et après confinement, comme beaucoup de sociétés dans la tech, bien évidemment. Et alors vous, ça vous a été profitable. L'année 2020 est une bonne année pour Jabra.
Pour le groupe en général, ça a été un impact lourd, surtout en Q2. Parce que, comme je vous le disais, il y a une très grosse partie de la société qui est dans le médical, dans les prothèses auditives. Notre clientèle étant plutôt une clientèle senior qui n'avait pas le droit de sortir.
Et voilà, c'est ça.
Ça donc, a eu un très très gros impact sur la partie hearing, donc la partie médicale, prothèses auditives. Par contre, sur la partie audio, on a eu 8 mois, 10 mois, 12 mois de demande en un mois, qui a consumé l'intégralité de notre stock tampon en gros en février-mars. Ce qui fait qu'on n'a pas pu répondre à la demande après, de avril à juin-juillet.
Oui, parce qu'après, il y a eu évidemment.
Parce qu'il y a eu une pénurie mondiale.
Pénurie, arrêt des usines, enfin.
Exactement. Et voilà. C'était incroyable, puisque c'est un pur hasard, mais on avait convaincu des enseignes du retail de commencer notre gamme micro-casque pour le télétravail, parce que c'était la prochaine étape de notre développement en retail, en grande distribution. Et on est rentré, par exemple, chez Fnac Darty, dans le groupe Fnac Darty, en février, sans savoir.
Que ça
allait avoir ça. Donc, ils ont placé des commandes de mars à juillet qu'on a dû livrer de septembre à décembre.
Alors Anthony, ça c'est le côté télétravail.
Oui.
Effectivement, c'est intéressant parce que j'imagine qu'il y a même des particuliers qui finalement s'équipent maintenant de vos produits, alors qu'avant c'était plutôt des entreprises qui achetaient 10, 20, 100 micro-casques, etc.
Oui, ou 1000, 2000, 5000, 2000,
enfin voilà, tout dépend de la taille de la boîte. Mais aujourd'hui, vous avez des particuliers qui... qui vont dans les magasins, qui achètent des produits, on va dire, plus pro. Parce que c'est vrai qu'on, pour beaucoup d'entre nous, on passe énormément de temps à faire de la visio, Teams, Zoom, etc.
Oui.
Et il faut un bon produit, quoi, qu'on nous entende bien et qu'on entende bien les gens.
Bah, c'est pour ça qu'on avait fait des tests dans pas mal d'enseignes en Europe. Et en France, on était en retard, clairement, dans ce développement-là.
Mm-hmm.
Et c'est un pur hasard. On a commencé au même moment où la pandémie a commencé. Donc évidemment, ça a accéléré, ça a fait prendre de très grosses parts de marché. Mais on n'a pas pu répondre à la demande en 2020. Après, en 2021, maintenant, on va construire ça, éduquer le marché. Oui, là où il y avait un DSI, enfin un directeur des services informatiques qui achetait 5 000, 10 000, 20 000 casques et qu'il les livrait dans un bureau, maintenant, il aurait fallu qu'il livre chez 10 000 personnes. Ils ont préféré, en général, dire « voilà, de l'argent, tu vas t'acheter chercher ton casque ». Et ça fait 5 ou 10 ans qu'on parlait de bring your own device, donc
oui,
prenez votre.
Oui, bien sûr.
C'était un peu. C'était des grandes phrases, c'était beau à dire, mais il n'y avait que 20 ou 25% des gens qui vraiment ramenaient leur outil. Maintenant, cette année, on a vu presque 60 ou 70% qui sont venus des gens qui sont venus acheter leur casque en grande distribution. C'est incroyable.
Donc vous êtes un spécialiste du Bluetooth aussi.
Exactement.
Est-ce que le Bluetooth, c'est un petit conseil que je vous demande, est-ce que le Bluetooth est bon pour tout ce qui est visio, etc., pour toutes les réunions, conférences, ou est-ce qu'il vaut mieux malgré tout avoir un fil branché sur son appareil?
Alors ça dépend de quel Bluetooth, après il y a plein de
voilà,
Bluetooth,
c'est ça,
de
c'est
Bluetooth
tout
1 à Bluetooth 5,
ouais.
5.1 ou 5.2 maintenant. On fait partie du consortium Bluetooth, donc en général
on
développait les produits autour du Bluetooth. Jabra, pour la partie grand public, c'était vraiment que du sans fil, on faisait plus de filaire du tout, à part pour les gammes télétravail justement. Mais aujourd'hui il y a largement la qualité, le débit et tout ce qu'il faut au niveau...
Même la latence, etc. Parce qu'on voit que parfois il y a de la latence, tout ça, ces problèmes sont réglés. Si on a un Bluetooth de dernière génération...
Nous on livre un dongle dédié qui est appairé spécialement...
Oui, c'est-à-dire qu'on va brancher un petit dongle sur l'USB du PC.
Oui.
Et qui va se connecter au...
Directement, et qui est appairé automatiquement, mais après vous pouvez connecter ce que vous voulez, ça reste un dongle Bluetooth, mais qui est développé avec une priorité à l'audio pour les appels. Maintenant, il y a des PC de très très bonne qualité qui ont des très bons Bluetooth, Il y a des PC de très mauvaise qualité qui ont du très mauvais Bluetooth. Donc...
Ça, il faut regarder ça quand on achète un PC. Cela dit, avec vous, bon, vous livrez des dongles, il n'y a pas de problème, mais vaut mieux regarder la dernière génération de Bluetooth qui est intégrée sur le PC.
En général, il faut. Et puis en plus, le gros désavantage d'être un accessoiriste, c'est-à-dire de fabriquer des casques pour un téléphone, par exemple, personne ne croit que c'est le téléphone ou le PC qui vaut 500, 800, 1000 euros qui a un problème. C'est forcément le casque à 100 euros qui a un problème. Donc, il faut faire de l'éducation autour de ça. Mais oui, il y a de plus en plus de PC quali avec du bon Bluetooth maintenant. Ça accélère, on a bien vu.
Anthony, un mot quand même sur la partie audio, partie grand public, parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, tout nous intéresse, mais c'est vrai que l'audio, la qualité du son et la plupart de vos produits sont souvent primés et plébiscités par les journalistes spécialisés en audio. Aujourd'hui, c'est quoi le marché? On voit que c'est un marché qui bouge beaucoup. Il y a quelques années, c'était les enceintes. Après, ça a été les casques Bluetooth, les casques fermés. Maintenant, on part sur le true wireless. C'est la folie, c'est-à-dire qu'on voit vraiment, il y a de tout là-dessus. Comment vous analysez en ce moment ce segment de l'audio grand public?
Alors, de l'audio grand public, donc le marché de l'audio, la GFK vient de publier ses chiffres, on a fini à 570 millions d'euros pratiquement, dont 82% de sans fil, donc Bluetooth.
Donc il ne reste plus que 18% de fil.
18% de filaire, donc le filaire s'écroule, mais est remplacé par le true wireless. Donc le true wireless ne remplace pas que le casque, il remplace aussi des gens qui avaient du filaire. Ça commence, ça y est, avec des prix qui s'adaptent, avec Apple qui a éduqué le marché, qui nous a aidé à développer, parce qu'on n'a pas les moyens d'Apple aujourd'hui. Ça a vraiment éduqué le marché. Et 82% de ça, donc, était du sans fil, et 69 ou 70% de ça est du true wireless.
D'accord.
Donc, c'est assez incroyable. Donc, nous, ça fait très longtemps qu'on fait du true wireless. On le faisait au départ pour les prothèses auditives. C'est Apple qui nous avait dit, tiens, je voudrais une prothèse auditive qui peut décrocher là-dessus. Il y a presque 10 ans.
Et c'est Apple qui vous avait demandé?
Au départ, on était venu voir au CES et on nous avait demandé de voir si on pouvait développer. Donc, c'est le ReSound Lynx. Ça a été le premier Bluetooth stéréo. Il fallait du true wireless pour ça.
C'était pour les personnes malentendantes,
exactement,
c'est ça.
Mais c'était des produits donc vraiment chers. Nous, notre challenge, ça n'avait pas été d'apprendre.
C'était quoi, il y a 10 ans, vous dites?
Ouais, c'est ça, à peu près.
Ouais, donc voilà, à l'époque, c'était une technologie de pointe.
Exactement. Et donc en 2016, on a pris tout notre savoir-faire du médical dans le grand public avec la gamme Elite Sport, qui au départ était vraiment le haut de gamme de notre gamme sport, puisqu'on était vraiment focusé sur le sport. En ayant perdu les sommets, vous imaginez que j'avais focusé beaucoup sur le sport en France, spécifiquement. Donc on avait toute une gamme et le Elite Sport était le haut de gamme. Mais on s'est aperçu qu'en tapant Jabra sur Google, le mot Elite, c'était le premier qui ressortait. Et donc on a surfé sur cette vague, on s'est dit, tiens, on va en faire une franchise, une marque, une vraie identité. Et donc la gamme Jabra Elite et toute notre gamme Appel et Musique aujourd'hui. Et on a gardé quand même notre savoir-faire dans le sport avec la Jabra Elite Active, qui est faite pour la vie active. On va rajouter une couche de par exemple protection contre la sueur ou de la gomme silicone pour pas que ça tombe,
un etc. peu renforcé, on va renforcé dire un peu plus comme outdoor quoi.
Exactement.
Ce qui est intéressant, c'est que comme vous êtes à la fois dans l'audio du bureau, du travail, mais aussi la médecine et on va dire l'audio grand public, j'imagine qu'il y a des passerelles entre tout ça et des technologies qui coûtent ultra cher, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les prothèses auditives qui sont à la pointe de la technologie, après certaines de ces technologies arrivent dans vos autres marchés.
Finalement maintenant commence à s'influencer les uns les autres. Ah, donc ReSound a pris de notre division grand public et de notre division professionnelle, parce que quand on fait des micro-casques pour un call center où il y a 5000 personnes, où il fait jusqu'à 40 degrés, etc., il faut des casques qui résistent pendant 10 heures à la transpiration, etc. Donc tout ce savoir-faire-là, on l'avait déjà. Il faut des micros aussi de très bonne qualité. Donc finalement, au départ, quand on me présentait nos gammes grand public, en général, les gens nous disaient j'utilise ça au bureau, j'utilise cette marque-là au bureau, parce qu'on était clairement moins connus en grand public. Je suis rentré il y a 8 ans et on faisait pratiquement que des Bluetooth mono, des oreillettes Bluetooth mono.
Oui, c'est ça. Oui, les petites oreillettes pour passer des appels, quoi.
Exactement. Donc, ouais, étant musicien et ayant développé les marques d'audio, il m'avait demandé d'essayer de faire la même chose. Donc, on a fait ça. On a développé l'audio et surtout le stéréo. Et ça a été une très très belle histoire avec les gammes Elite Sport, finalement Elite, maintenant Elite Active. Et on est en train de rajouter au fur et à mesure notre savoir-faire. Pour être très honnête, il y a 8 ans, les divisions ne travaillaient pas ensemble. Que ce soit le médical, le professionnel ou le grand public.
C'était par silos, et on voit que maintenant, il commence à avoir une porosité.
À partir de 2016, on a commencé à travailler ensemble. Mmh. On a eu des projets avec tous les ingénieurs du groupe qui ont commencé à travailler ensemble. Exactement. Et donc le premier projet, c'était l'Elite Sport, qui a pris tout le savoir-faire du médical.
Vous avez cité Apple tout à l'heure, Apple qui est sorti du bois il y a quelques années avec ses AirPods. Et là, c'est comment, quand on est un Jabra qu'on a installé depuis des années, qu'on fait des produits de qualité, qu'on voit Apple qui arrive et qui, d'une manière insolente, lamine le marché.
Oui.
Est-ce que vous l'avez vu arriver? Et deux, comment on réagit, en fait?
Le marché aurait été 1 milliard, ils auraient pris 70%, on aurait dit ils ont laminé le marché. Mais en fait, le marché était tout petit et ils l'ont créé, ils ont éduqué le marché, ils ont... Donc nous, au départ, j'étais un peu... je me rappelle un soir, je regardais la télé, j'étais un peu énervé, je disais, voilà, regarde, on n'aura jamais les moyens. Et ma femme me disait, mais tu devrais être content, regarde, ils éduquent le marché gratuitement pour toi. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu fait ça.
Elle est positive, votre femme, c'est bien.
Exactement.
Bravo.
Exactement.
On la salue.
Je prends des conseils, madame. Et on a fait le poisson pilote un peu au départ, en se disant, on n'est pas Don Quichotte, on n'ira jamais chercher des marques comme Bose ou Apple, on n'ira jamais chercher des marques comme ça. Et finalement... Avec le True Wireless, toutes ces marques d'audio sont venues dans notre savoir-faire, dans notre cours, et ont commencé à développer. Et finalement, on attendait ça. On attendait que beaucoup de grandes marques arrivent sur le True Wireless. Et
pour démocratiser, en fait.
Lyon Jabra, en fait,
d'accord.
C'est très qualifié.
Mais sincèrement, c'est-à-dire qu'Apple a fait du bien, du bien? Ou alors c'est de l'hypocrisie, parce que vous pouvez pas dire que finalement, bon...
Non, c'est comme sur les montres, il y avait beaucoup de fabricants d'Apple de Watch.
D'accord,
qui vendaient un peu, et en général, quand Apple Watch est arrivé, tout le monde leur disait, ils vont vous déchirer, et finalement, ils vendent 10, 15, 20 fois plus qu'avant, parce qu'Apple a créé le marché, elle l'a développé.
Et alors, quand on voit des AirPods, par exemple, vous étudiez un peu ces produits pour essayer de faire mieux, pour faire différent, comment se démarquer, justement, pour trouver peut-être une autre audience et d'autres clients, en fait?
Alors déjà, on n'aura jamais des puces H1 ou autres pour être dans l'écosystème Apple, donc je pense pas que ça se fasse...
Les puces H1, c'est ce qui permet de se connecter facilement.
C'est la puce d'Apple qu'il y a dans leurs produits. En revanche, Apple a 15% de part de marché dans le monde, donc il y a 85% de gens qui sont sur du Android ou autre. Donc on adresse ces gens-là au départ, et finalement, on a beaucoup de clientèle Apple qui achète aussi nos produits. En revanche, on s'était dit tout de suite qu'on ne ferait pas d'imitation, donc on n'a pas de produits forme stick, forme Apple. Pour l'instant, c'est pas prévu.
Enfin, cela dit, il y a certains constructeurs qui copient, mais c'est souvent des Chinois qui copient les AirPods, non, de manière
grossière. Ouais, mais finalement, si vous regardez, il y a 80% des marques d'audio aujourd'hui qui viennent
avec des petits bâtonnets comme ça. D'accord.
Donc on a décidé de nous rester en intra.
Vous faites de la résistance.
On résiste pour l'instant. Ça veut pas dire, voilà, on dira pas. Oui, voilà. Je boirai jamais de ton eau, mais. Pour l'instant, on sait se différencier, on est une marque qui fait de l'intra, on veut continuer à miniaturiser. Par exemple, voilà, de l'Elite Sport à l'Elite 65T, on a perdu 30% de taille, et au 75T, on a perdu 21% de taille. Donc, au fur et à mesure, on miniaturise et on amène notre savoir-faire.
Avec toujours la qualité du son qui est importante. Mais est-ce que, sincèrement, on peut avoir un bon son avec des trous wireless qui sont en Bluetooth dans des formats de plus en plus petits, vous le dites, on arrive malgré tout à sortir quelque chose de correct de ces produits-là?
Aujourd'hui, oui, honnêtement, au tout début du Bluetooth, on aurait pu se dire qu'il y avait un problème. On n'est pas à la qualité d'un casque filaire à 5000 euros, hein, donc il faut tout de suite oublier, et c'est pas grave, et on ne s'adresse pas aujourd'hui à une niche de gens qui veulent de l'ultra...
Oui, bien sûr.
Ultra enfin, gamme.
Ça marche très petit. En
exactement. Et de toute façon, nous, on est dépendants du marché du téléphone. Mm-hmm. Et beaucoup de téléphones n'ont pas toutes les dernières technologies de LDAC, etc. etc.
Oui,
beaucoup...
parce qu'il y a des technos aussi pour améliorer le Bluetooth, en fait. Le LDAC, l'APTX...
La PTX HD, l'IRES, etc., qui en général appartiennent à des concurrents. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas aller vers ce chemin-là. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technos en 5.0 ou en 5.1,
on arrive à avoir un bon son.
On a le bon débit, mais on dépend toujours de la qualité qui est envoyée par le téléphone.
En fait, c'est ça. Comment ça se passe, en fait? Comment discutent là, en Bluetooth vos appareils avec le téléphone? En fait, ils se disent « Ok, t'as la dernière puce, donc le Jabra va s'adapter en fait, au meilleur son possible sur le téléphone
?» En général, dans nos produits, on a des puces Qualcomm. Les dernières générations, par exemple, le 85T, c'est la dernière génération de Qualcomm, ce qui nous a permis, même dans le 75T, de faire une mise à jour gratuite, parce qu'on avait déjà la plateforme technologique, donc on a transformé nos produits en ANC. Active Noise Cancelling, réduction de bruit actif, pardon.
Ok, parce que ça aussi, c'est un autre segment important. Exactement. C'est la réduction de bruit qui arrive sur ce type de produit.
Hein. On avait à l'époque que dans nos produits entreprises, vraiment. que pour la partie B2B et qu'on a ramené maintenant depuis l'année dernière dans notre gamme grand public.
D'accord.
En True Wireless, parce qu'on l'avait déjà en casque depuis 2 ans. Ouais.
Et alors, ça coûte combien aujourd'hui un bon True Wireless chez Jabra ?
Alors, un bon True Wireless chez Jabra, on commence à 120 euros, on va dire, et ça va jusqu'à 300. Et, mais on a évidemment des promotions, voilà, il y a plein de choses d'activités. On va avoir des prix assez agressifs. Par exemple, pour le Black Friday, on avait un produit à 79 euros. Parce qu'on voulait faire un test, voir s'il y avait une élasticité du prix, et ça a très 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 bien marché.
Alors que normalement, il coûtait combien ce produit-là ?
Celui-là valait 129 normalement.
D'accord, ouais, donc on faisait une petite affaire. On voit qu'il y a pas mal de vos concurrents qui commencent à s'intéresser un peu à la santé,
oui,
en rajoutant de nouveaux capteurs en fait dans les intras. C'est vrai qu'étant donné qu'il est proche de l'oreille, on peut capter par exemple la fréquence cardiaque, aller peut-être même encore plus loin. Est-ce que c'est une voie que vous étudiez, la santé ou pas?
Ah oui, toujours. Bah, le bien-être, plus que la santé, vraiment, parce que la santé,
oui,
on la garde.
Oui, c'est vrai que la santé, c'est un peu galvaudé. Le bien-être, on va dire.
C'est plus le bien-être. Et on a été, bah oui, les premiers avec l'Elite Sport, qui avaient et un capteur cardiaque dans l'oreille, parce que c'est dans l'oreille qu'il y a le plus grand nombre de petits vaisseaux sanguins.
Donc, c'est-à-dire qu'on arrive bien à capter la fréquence cardiaque,
oui,
avec un intra-auriculaire, en fait.
Ah oui, c'est même meilleur là. C'est pour ça qu'on prend la température des bébés, en général, dans l'oreille. C'est là qu'il y a le plus... La capillarité,
ah oui,
c'est,
ouais,
là, ouais, qu'il y a le plus grand nombre
mieux
de petits vaisseaux.
Mieux qu'une montre, par exemple.
C'est mieux qu'une montre, sauf les nouvelles techno avec 3 capteurs, ouais, etc. Mais aussi bien qu'un capteur de torsion.
Donc autant en profiter, hein, finalement. Ouais. On met ces trous wireless. Donc, exactement, on a la fréquence cardiaque.
Mais ce marché-là, nous, le Leadsport a toujours ça, il est toujours actif, il a des détecteurs de mouvement qui peuvent même compter vos pompes.
Mais ça marche, ça, ou pas ? Est-ce qu'il y a vraiment une, on va dire, une clientèle pour ce type de produit, où finalement, la plupart de ces gens-là ont une montre, donc en fait, ça vient en doublant, enfin voilà.
Oui, et puis on avait, alors ça c'était une erreur, je pense, on avait un peu opposé le casque sport à casque grand public pour la musique et les appels. Et c'est aussi pour ça qu'avec Elite, avec la gamme Elite, on a tout remis à zéro. C'est-à-dire, quelqu'un qui va acheter un casque sport, il veut quand même avoir le casque qui fait aussi les appels et la musique. Donc c'est plus du multifonction. Donc si quelqu'un se dit, bon, je ne veux pas faire de sport, il aura appel et musique, et s'il veut faire du sport, il aura appel, musique et sport. On voulait plus opposer ces clients-là.
Anthony, comment ça va évoluer tout ça ? On voit que la tendance, c'est le true wireless, avec de la miniaturisation, etc. C'est quoi les faiblesses encore de ce type de produit, à votre avis, qui vont être corrigées ? Et puis surtout, est-ce que vous voyez déjà d'autres tendances qui se dessinent dans les mois ou les années qui viennent ?
Alors oui, de toute façon, la miniaturisation, les batteries, parce qu'il y a 4 ou 5 ans, on expliquait que le marché du filaire sera remplacé par le marché du sans fil et surtout par les intras, une fois qu'on pourrait garder un casque pendant 7, 8, 9 heures d'affilée, ce qui n'était pas impossible il y a 3-4 ans, c'était 3 heures, 4 heures max. Donc c'était impossible. On savait que le taux d'adoption serait limité par la technologie.
Oui, par l'autonomie.
Exact. Et l'autonomie, et le confort, qu'on puisse porter le produit pendant 5 heures sans que ça brûle, etc. Donc c'est énormément de développement, et on va aller vers là, donc encore plus de confort, encore plus d'autonomie, encore plus de qualité audio, de la personnalisation, par exemple. Donc on a développé le MySound dans notre application, parce qu'on a un écosystème, on ne veut plus parler que de produits, on va parler de services, d'écosystème complet. MySound vient de la division médicale, donc c'est un test auditif dans l'application que vous allez faire.
D'accord, c'est-à-dire que pour la première fois j'achète mon produit, oui, je fais une espèce d'audit de mon oreille.
Exactement, vous faites un test auditif, donc il va
vous
dire
auditif.
Quel âge, quel sexe, est-ce que vous entendez. Donc il va vous, pendant une minute à droite, une minute à gauche, vous dites j'entends, j'entends pas, vous tapez pour entendre.
Ouais.
En général, il y a des fréquences qu'on n'entend plus. D'ailleurs, c'est troublant.
Plus on vieillit, plus c'est le cas. Hein,
et c'est troublant, vrai, hein, c'est troublant. Ouais. Et ensuite, il va adapter le son et à votre oreille droite et à votre oreille gauche.
Et donc, il va l'équaliser,
exactement,
pour qu'on ait le meilleur rendu,
exactement,
par rapport à notre acuité auditive.
Exactement.
En fait, c'est ça.
Il va vous proposer un graphe droite et gauche qui correspond à ce que vous entendez. Mais là-dessus, vous pouvez quand même encore
rajouter
des
modifier,
bases, des bases, etc.
D'accord.
Donc ça, c'est MySound. Et c'était justement notre petit clin d'œil, montrer tout notre savoir-faire des prothèses auditives et du médical, l'adapter à ça. La deuxième étape, c'est MyFit, c'est-à-dire test de maintien et de, comment dire, sealing, de fermeture de l'embout. Donc on vient de faire la mise à jour, là, il y a très peu de temps, sur le 85T, notre produit, puisqu'il a un micro à l'intérieur.
Ah d'accord, donc il va voir si le produit est bien positionné dans l'oreille.
Si c'est bien fermé, si c'est bien positionné, d'accord, et donc avoir la meilleure expérience de réduction de bruit et de son.
Ouais, c'est aussi ça, hein, c'est le confort qui arrive en fait dans les points les plus plébiscités par les consommateurs.
Et évidemment, tout ce qui est capteur, il y en aura de plus en plus. On parle depuis très longtemps de pourquoi pas capteur de stress, etc. Mais après, faut voir comment ça rentre légalement avec la CNIL et autres. Mais il y aura plein de choses.
Et
puis que
ce ne soit pas au détriment de votre métier premier, qui est la qualité du son.
Exactement. Hein.
Voilà, Jabra. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur cette marque donc danoise. Anthony Adouane, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Et
cette petite mise à jour donc de Jabra. Vous êtes directeur commercial donc de la division grand public de Jabra France. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis sur l'appli RMC, BFM, mais aussi sur 01TV. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Portez-vous bien, à très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01TV.